On est parti pour une série qu'on a commencée il y a de cela 2 semaines. Et pour ceux qui nous rejoignent et qui auraient besoin d'une petite synthèse sur où est-ce que l'on est, on est en train d'étudier le Saint-Esprit dévoilé. Et on va voir ensemble le programme sur vos écrans maintenant. Notre Père, nous avons entendu de nombreux messages et souvent, Seigneur, nous venons dans une église pour recevoir de toi une parole. Mais Seigneur, je dois reconnaître que bien souvent, à titre personnel et beaucoup de mes amis, on a du mal, Seigneur, à laisser notre cœur toucher. Je te prie pour que en cet instant, par le Saint-Esprit, tu puisses toucher à l'intérieur de nous-mêmes ce que tu veux atteindre. Je crois qu'il y a une parole de Dieu pour quelqu'un ce matin. S'il te plaît, Seigneur. Fais-toi un chemin, écarte, Seigneur, tout obstacle pour que on puisse vraiment recevoir de toi le pain de ce jour, la nourriture nécessaire au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Saint-Esprit dévoilé. Vous avez peut-être été présent les premières fois que lorsque l'on a insisté sur l'importance du Saint-Esprit. Jésus, quittant cette terre, dit: Vous avez tout intérêt à ce que je m'en aille. Non, ne pars pas. Si vous avez tout intérêt à ce que je m'en aille, parce que vous recevrez quelqu'un qui est plus puissant, qui pourra faire à l'intérieur de vous un travail que je ne peux pas faire physiquement, le Saint-Esprit descendra sur vous. Et c'est ce qu'il se passe lorsque, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est particulièrement manifesté. On avait commencé avec les connexions de l'Esprit. Qu'est-ce que c'est que, recevoir une connexion de l'Esprit? C'est lorsque tu es né de nouveau. Ah, pas né dans le ventre de ta mère, lorsque tu as la grâce de voir un jour en face tes péchés, tu vois tout ce qui est faux chez toi, tout ce qui n'est pas juste chez toi, et le Saint-Esprit qui te convainc de ce que tu as fait comme erreur, t'amène à la croix, t'amène à Jésus. Et alors que pour certains, il y a des larmes, pour d'autres, c'est juste intérieur. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose à l'intérieur de vous, pas dans votre corps forcément. Pas dans votre âme, vos émotions ne sont pas toujours touchées, mais dans votre esprit. Et Dieu allume en vous un esprit qui crie Abba Père, qui fait que tu es devenu une nouvelle personne, une nouvelle créature. L'esprit de Dieu vient donner vie à ton esprit. Et ça, c'est la plus importante des révélations que l'on voit dans le Nouveau Testament. Naître de nouveau, naître d'esprit. Et en général, vous passez par l'eau du baptême. Puisque Jésus dit à Nicodème, né d'eau et d'esprit, assume après ce qui s'est passé intérieurement par un geste public. Mais il y a un débit en termes de puissance que Dieu veut te faire connaître, parce que souvent les chrétiens restent là. Ils sont juste contents, ils ont l'esprit à l'intérieur d'eux, quelque part, dans un coin de leur tête, mais ne sont pas bouleversés, ne sont pas changés, transformés. Ils restent à un premier niveau alors que Dieu a prévu plus pour toi. Il a prévu que tu ailles plus loin et plus vite. Et il a prévu pour toi que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit, immergé. Et c'est le deuxième niveau de connexion. C'est une connexion haut débit avec Dieu. On a vu la semaine dernière que cette connexion va avoir des conséquences. Il va y avoir des confrontations. Corps, âme et esprit. Ça fait beaucoup à l'intérieur d'une seule personne. Et vous êtes tous corps, âme et esprit. Le corps, c'est le visible, l'âme, c'est le siège de vos émotions, et l'esprit, c'est ce qui, en vous, est en contact avec Dieu. Sauf que c'est un putsch permanent, c'est un coup d'État, tous les jours, entre qui veut prendre le pouvoir et prendre les décisions. Votre corps va, par ses pulsions, aller dans un sens, mais votre âme, avec ses émotions, parce que vous êtes mis cette semaine, à un moment, vous êtes enfermé dans votre chambre, vous avez claqué la porte, vous vouliez être seul parce que vous étiez mal, vous avez vécu peut-être un moment de honte, peut-être vous avez vécu un moment où vous étiez profondément joyeux, vous avez sauté de joie, vous avez crié, vous avez hurlé parce que il s'est passé quelque chose. Tout ça, c'est l'âme, mais c'est au siège des émotions. Et il y a aussi l'esprit. Et l'esprit, c'est beaucoup plus intérieur. Et souvent, c'est l'esprit qui est malmené à l'intérieur de nous. Notre corps parle, notre âme parle, mais l'esprit, il est souvent oublié. Il est souvent oublié. Pourtant, il y a des confrontations. Alors imaginez, lorsque vous êtes tenté par quelque chose dans votre corps et que l'esprit vous dit « fais pas ça ». Beaucoup de chrétiens réagissent en disant « il faut que je me mette des règles, il faut que je me mette des principes ». C'est bien les principes, mais rien ne vaut le fait que de laisser l'esprit gagner à l'intérieur de vous. L'apôtre Paul ne s'en sortait pas. Il dit, mais qui me délivrera de ce corps voué à la mort ? Il dit, mais grâce soit rendue à Jésus-Christ. L'esprit de Dieu me donne la victoire là-dessus. Et Paul dit, j'arrive à ce que le Saint-Esprit garde le pouvoir et que mon corps ne fasse pas un putsch. Mais des fois, c'est votre âme qui fait un putsch contre le Saint-Esprit. C'est votre âme, c'est vos émotions. Et vous vous laissez comme envahir, déborder par vos émotions. Et l'esprit, il lutte. Le fruit de l'esprit, c'est la paix, la joie, la patience, la maîtrise de soi, l'amabilité, la bonté. Mais votre âme, elle a envie de pleurer, elle a envie de crier, elle a envie de s'énerver, elle a envie de contrôler. Et c'est pour ça que, on avait terminé avec cela, mais il y a des moments où un chrétien, on peut confondre dans une visitation de Dieu, l'âme et l'esprit. Parce que quand l'esprit vient vous visiter, pour certains, votre âme veut contrôler, notamment par rapport au moment du baptême dans le Saint-Esprit. Certains sont complètement bloqués, pétrifiés, bloqués, parce qu'ils perdent le contrôle et leur âme ne veut pas perdre le contrôle. Ils veulent rester maître de toutes leurs émotions, donc l'âme contrôle. Et ils mettent le Saint-Esprit en boîte. Vous me suivez ? Je sais que je fais un récapitulatif rapide, mais bon. Pour d'autres, leur âme, elle est hypersensible. Et selon la culture que tu as, ton environnement, ton éducation, les choses que tu as vécues, pour certains, vous avez une âme super sensible. Certains, ils vont vivre un moment où le Saint-Esprit est sur eux, mais ils vont crier comme des fous. Pourquoi ? Parce qu'ils ont plus l'esprit ? Non ! Parce que leur âme, lorsqu'elle voit qu'il y a l'esprit à l'intérieur, elle explose. Et c'est pour ça que selon les églises, selon les personnalités, vous n'allez pas réagir pareil à la présence de Dieu. Et très vite, votre âme, elle est affectée. Et ceux qui ont une âme toute calme, etc., ils vont rester calmes. Et un hyper exubérant va être exubérant. Est-ce qu'il y en a un qui est plus spirituel que l'autre ? Non. Ne confondez pas l'âme et l'esprit. Dieu vous a fait corps, âme et esprit. Il aime votre âme. Il aime votre culture. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais ne mélangez pas les trois choses. Votre corps est différent de votre âme est différente de l'esprit. Et les confrontations se terminent avec lorsque l'esprit à l'intérieur de vous, qui fait de vous un enfant de Dieu, peut rencontrer un esprit mauvais. Waouh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça arrive. Il y a des personnes qui sont habitées par des choses démoniaques. Je crois qu'il y en a. Je crois aux démons. Et lorsqu'elles venaient rencontrer Jésus, ça rentrait en confrontation. Lorsqu'elle rencontrait l'apôtre Paul, ça rentrait en confrontation. Souvent, c'était dans les rues. Souvent, c'était Jésus qui se déplaçait pour aller à Gadara, etc. Et l'esprit à l'intérieur de ces personnes qui étaient tourmentées par un démon, lorsqu'il rencontrait un chrétien, il y avait une interposition, ça cognait fort. Et l'apôtre Paul nous dit même, attention, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des puissances dans les lieux célestes, des autorités, des esprits mauvais. Et ça peut arriver tout à fait qu'en tant que chrétien, on ait à faire face à des attaques extérieures d'esprits démoniaques. Et j'y crois absolument. Et ça arrive. Mais n'oubliez pas une chose. Celui qui vit en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et en fait, à chaque fois qu'un esprit mauvais venait voir Jésus, il tremblait. C'est le même esprit qui habite à Christ qui est en vous. Puisque le même esprit qui habite Christ est en vous, dit l'apôtre Paul. Il vous rend fort vainqueur de la mort. Vous n'avez pas à craindre ça. L'esprit qui est en vous est plus fort. Certains vont dire, oui, mais est-ce qu'un chrétien peut être possédé, peut avoir un autre esprit ? Jésus, à un moment, a été extrêmement fâché parce que les pharisiens ont dit que Jésus avait un esprit mauvais à l'intérieur de lui. Et il leur a dit, ce que vous dites, c'est n'importe quoi. Il dit, comment vous pouvez dire que c'est par l'esprit mauvais de Belzébul que je chasse les démons? C'est n'importe quoi. Alors que j'aurais soi-disant un esprit mauvais à l'intérieur de moi. Et Jésus leur dit, attention, vous dites n'importe quoi. Un homme fort ne peut pas rentrer dans une maison sans avoir ligoté le gardien d'abord. Un esprit mauvais ne peut pas rentrer en vous. Il faudrait qu'il ait d'abord viré le Saint-Esprit de votre cœur. Et pour virer le Saint-Esprit, il n'y a qu'une seule personne qui peut le faire, c'est vous. C'est si vous choisissez délibérément de dire « Saint-Esprit, tu t'en vas, je préfère retourner à mon ancienne vie, à ma vie de péché, etc. » Mais en tant qu'enfant de Dieu, vous avez en vous un esprit de Dieu. L'esprit de Dieu fait de vous le temple de Dieu. Et il ne laissera pas un démon rentrer là-dedans. Par contre, je peux vous dire qu'un temple peut être attaqué. Et pour certains d'entre vous, on avait vraiment vu qu'il y a des attaques démoniaques qui sont très fortes, et puis il va jouer aussi sur votre corps, et puis il va jouer aussi sur votre âme, parce qu'il se dit peut-être par là, ça va la rendre plus fragile, peut-être qu'en attaquant physiquement, elle va être plus sensible, et du coup, ça va la troubler. Peut-être que si jamais je lui mets beaucoup d'émotions et que je lui rappelle les choses terribles et les abus qu'elle a vécues, peut-être que ça va la faire ou le faire trop penser, et qu'il va finir par croire que je suis arrivé à le détruire à l'intérieur. Non. Regardez-le en face et dites, Seigneur, tu es à l'intérieur de moi et tu es plus grand que celui qui est en face. Je te regarde, toi qui es en face, et je te dis, tu n'as aucun droit sur ma vie. Tu n'as aucun pouvoir parce que je suis une fille de Dieu, un fils du Dieu très haut. Alors, on arrive aujourd'hui au troisième point, les consolations du Saint-Esprit. Est-ce que vous en avez besoin ou pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, dans cette salle, a besoin de la consolation du Saint-Esprit? Si vous n'avez pas besoin de la consolation du Saint-Esprit, on peut rentrer chez nous, il fait un beau temps, on peut aller louer le Seigneur. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui a besoin de comprendre quelque chose par rapport à ça. Les consolations du Saint-Esprit, le Saint-Esprit dévoilé. Regardez Jean 14, verset 26. J'ai gardé le mot grec parce qu'en français, c'est difficile à traduire. Mais le paraclétos, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte dans votre cœur. Non, vous ne l'avez pas reçu alors? Si? Jésus nous a menti? Non. Il a dit, je vous envoie le paraclétos, celui qui sera... Qu'est-ce que ça veut dire paraclétos? Paraclétos, c'est mon soutien, mon avocat, mon consolateur, mon soutien. Mon avocat, mon consolateur, mon soutien, mon avocat, mon consolateur. Si seulement vous le réalisiez. La semaine dernière, notamment par rapport à ce que votre corps, des fois vos pulsions ou votre âme, le Saint-Esprit, c'est celui qui vous dit non. C'est celui qui, lorsque tu vas t'engager sentimentalement dans une mauvaise direction, te dit « Si j'étais toi, je ne le ferais pas. » Le Saint-Esprit, lorsque tu veux cliquer sur quelque chose qui dit « je suis en désaccord avec ce que tu es sur le point de faire ». Le Saint-Esprit, lorsque tu veux te mettre en colère et que tu es en train de perdre tes nerfs, le Saint-Esprit dit « ma chérie, c'est pas comme ça que je t'aime. Tu ferais mieux de te calmer tout de suite. » Le Saint-Esprit dit non. Il y en a à qui le Saint-Esprit dit non. Je ne suis pas le seul ici qui me fait reprendre par le Saint-Esprit, on est d'accord. Mais est-ce que vous connaissez l'autre aspect du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit qui dit « oui ». Dans les églises évangéliques, on aime parler du Saint-Esprit qui dit non. Mais c'est beaucoup plus difficile de parler du Saint-Esprit qui dit oui. Et en fait, le Saint-Esprit, il est souvent là pour te dire oui. Sauf que tu l'écoutes que quand il te dit non. Et tu l'entends même pas dans sa petite voix qui te dit combien il apprécie de travailler avec toi. Combien le Saint-Esprit est fier d'être en toi. Combien il ne regrette pas le fait de t'avoir choisi comme temple. Combien le Saint-Esprit est là. Et qu'est-ce qu'il dit alors? Qu'est-ce qu'il dit le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il dit le Saint-Esprit? Romains 8, 14. Romains 8, 14. Regardez, ça va s'afficher sur vos écrans. Romains 8, 14. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu... Ah non, on ne peut pas le dire. Sinon, on va devenir orgueilleux. Ah non, on ne peut pas. Il y a des... Sondez. Y a-t-il des fils de Dieu dans la salle? Y a des filles de Dieu dans la salle? Waouh! Sauf que ça, c'est dans notre tête, mais ça ne descend pas jusqu'à notre cœur. Et c'est quelque chose de terrible contre lequel plusieurs obstacles, plusieurs fragilités viennent nous empêcher de réaliser ça. Mais je vais quand même le redire. C'est juste la slide d'avant. Le Saint-Esprit me soutient lorsque mon cœur se laisse adopter par l'Esprit. Regardez ce qui se passe. On revient à Romains 8, 14, le verset 15. Il dit « En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'Esprit qui fait de vous des fils et des filles adoptifs de Dieu. Car c'est par cet Esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Et vous savez pas quoi? On a beaucoup de mal à accepter ça. Et je parle pour les hommes, je suis un homme, je peux dire, vraiment, c'est quelque chose où on se dit, ouais, c'est mielleux, c'est gentil, c'est rose. J'ai fait exprès pour vous provoquer de mettre des diapos roses. Parce qu'il y en a plein qui sont dit, hop. Et en fait, on a un cœur dur. On entend ça, mais on a une mentalité d'esclave. J'ai une mentalité d'esclave. Je vais, pas vous, vous êtes spirituel. Moi, je ne suis pas assez spirituel. Et souvent, j'ai une mentalité d'esclave parce que je viens vers Dieu et je dis, Seigneur mon Dieu, je te demande pardon parce que je n'ai pas fait ce que je devais faire aujourd'hui. Tu m'avais demandé d'être plus sérieux, d'être plus fidèle, de lire ma Bible. Je dis pardon Seigneur, je n'ai pas lu ma Bible. Pardon Seigneur, je n'ai pas pris le temps de louange que j'aurais dû prendre avec toi. Seigneur, pardon parce que je n'ai pas été assez serviable envers les personnes que j'aurais dû. Et puis au centre commercial, elle m'a marché sur le pied. Je lui ai dit, hey, Seigneur, je te demande pardon pour ça. Et puis, et Saint-Esprit m'écoute. Et l'apôtre Paul, il m'écrit comme il t'écrit. Et vous n'avez pas fait, vous n'avez pas une bonne compréhension de Dieu. Arrêtez de vous excuser comme des esclaves qui viennent et qui ont que, qui viennent voir leur maître comme un adjudant-chef. Bonjour adjudant-chef, je viens en rapport avec toutes mes erreurs aujourd'hui. C'est bien de demander pardon et je crois que le Saint-Esprit est là aussi pour vous convaincre de péché, de justice et de jugement. Mais je voudrais aussi vous parler du Saint-Esprit qui dit oui. Le Saint-Esprit qui dit qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Vous lui dites ça de temps en temps? En anglais, comment il dit? Daddy. En français, c'est papa. La plupart des dialectes africains, c'est papa. Est-ce qu'il y en a un, c'est autre chose? Allez, aidez-moi ce matin. Comment on dit mon père, mon papa? Est-ce que quelqu'un a une version différente? Comment ça se dit? Amen. C'est beau ça. Ça ressemble à ce que Shaina, elle me dit. Elle doit être africaine, ma fille. Kata. C'est plus Kata que papa. Vous voyez un petit peu le... Mais parce que t'as plus l'âge de dire ça. C'est terrible parce qu'on réalise ça que le jour de notre conversion. Et après... On reprend notre mentalité d'esclave. On accepte l'adoption de Dieu juste au début de notre conversion. Et après, on revient et puis on n'est que dans « Le Saint-Esprit me dit non, le Saint-Esprit me dit non. » Et on oublie que le Saint-Esprit en nous nous fait aller voir Dieu le Père et dit « Papa !» C'est quand la dernière fois que tu as parlé à Dieu en disant « Papa !» C'est quand? Réponds là, honnêtement, dans ta tête. C'est quand la dernière fois que tu es allé vers Dieu avec autre chose que notre Dieu ou Seigneur? Seigneur, vous avez vu les seigneurs au Moyen-Âge? Ils découpent de partout les seigneurs. Hein, c'est une épée, un cheval blanc et vas-y que ça castagne. Et on est profondément imprégné en disant c'est mon Seigneur. Et c'est très guerrier, c'est très une vision de Dieu. Le Saint-Esprit crie en vous. Papa, Vous êtes des filles et des fils adoptifs de Dieu. Mais on n'arrive pas à se laisser adopter. Vous avez vu dans les familles d'adopter comment c'est difficile des fois? Je ne sais pas si quelqu'un était adopté. Mais quand on était adopté, on ne s'en sent jamais assez aimé. Vous avez vu ça? Beaucoup de gens que je vois en entretien qui t'ont adopté, il y a quelque part, souvent la maman adoptive ou le papa adoptif, il y en a qui ont adopté, non? Dans cette salle, je suis sûr. Vous leur avez donné autant d'amour, si ce n'est plus d'amour, pour certains. Mais une personne adoptée a souvent un sentiment de vide à l'intérieur. On a du mal à appeler Dieu papa. Parce que notre vision peut-être du Père sur la terre est tellement faussée. Mais alors le Père céleste, c'est un amour, mes amis. C'est un amour. En fait, Dieu même, il est carrément amour. C'est ce que dit Jean. Dieu est amour. Il n'est pas coup de fouet. Il est amour. La première fois que je suis allé au BAFA pour faire dans un camp pour devenir animateur, on faisait le tour de la pièce à prier. Vous voyez, que des gars de 15 ans, 16 ans, 17 ans, de 17 ans et 18 ans, pardon. 17 et 18 ans, faut pas que je dise de bêtises. 17 et 18 ans, que des jeunes de 17 et 18 ans dans la pièce. Et on faisait le tour, on passait de lit en lit pour prier. Vous savez, quand chacun son tour prie, une réunion un peu de prière très solennelle, vous voyez. Donc moi, je prends mon élan. Merci, notre Père dans les cieux, pour l'onction de Dieu. J'essaye d'en mettre un peu plein la vue aux copains tout en parlant à Dieu, d'accord? Ouais, c'est normal, je suis orgueilleux, pas vous. Mais après, je vois mon copain qui essaye de faire une prière encore plus profonde. Elle était bien plus d'ailleurs, bien plus spirituelle, etc. Puis on arrive à un garçon, là. Et il dit, papa, je t'aime, t'es trop bien. Moi, j'ouvre les yeux dans ma prière, bon pharisien que je suis, je dis, il parle à qui, lui? Il parle, mais il se prend pour qui, lui? Le gars, il continue, papa, je t'aime. Papa, je regrette pas de t'avoir choisi. T'es mon meilleur ami, mon soutien, mon conseil. Il se prend pour qui, lui? Il se prend pour un fils de Dieu ou quoi? Et l'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Et souvent, on n'ose pas le dire parce qu'on se dit, ouais, je ne vais pas me prendre pour Jésus quand même, c'est Jésus le Fils de Dieu. Non, il dit qu'il est le premier pour acheter ses frères. Ah ! Alors moi, je lutte encore, hein, je vous prêche, mais je lutte encore parce que ma mentalité d'esclave fait que j'ai du mal à considérer et à prendre vraiment conscience de ça. Et en fait, l'apôtre Paul, lui, il le dit, c'est normal que ça bloque et qu'on ait du mal à réaliser ça parce qu'on a des fragilités dans notre cœur. On a trois fragilités, la fragilité de la création, la fragilité de notre corps et la fragilité de nos prières. Je ne sais pas si j'ai le temps de tout lire parce que je ne veux pas non plus être en retard, mais dans Romains 8, l'apôtre Paul dit, j'estime d'ailleurs, c'est juste après le texte sur Abba Père, il dit, j'estime qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir, car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Et cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, il lui a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de la corruption qui l'a servie pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Il est incompréhensible ce texte, sauf si on réalise que l'apôtre Paul est en train de nous dire, vous avez du mal à réaliser que vous êtes fille et fils adoptifs de Dieu, parce que quand vous voyez la création entière, elle est en train de se détruire. Vous plantez une graine, l'arbre il devient magnifique, quelques temps après, il meurt. Vous voyez votre corps, c'est en train de se détruire. Toute la création est en train en permanence de se détruire et de se reconstruire. Et ça, ça vous incite pas à comprendre votre statut d'enfant de Dieu. Après, il dit, il y a un deuxième aspect. Il dit, nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement, dans les douleurs d'un enfantement. Et elle n'est pas la seule à gémir. Car nous aussi, nous avons reçu l'Esprit comme un avant-goût de la gloire, mais nous gémissons au fond du cœur en attendant d'être pleinement établi dans notre condition de fils adoptif de Dieu, quand notre corps sera délivré. En fait, notre corps, et on gémit aussi, hein. On sait qu'on est enfant de Dieu, mais notre corps eh ben, il ne nous pousse pas à le réaliser. Parce que franchement, si je suis un enfant de Dieu, je ne vois pas pourquoi j'ai autant de problèmes. Et donc, on a du mal à voir l'aspect divin là-dedans. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, mais on l'est, mais le corps physique, lui, il n'est pas. C'est votre esprit qui est enfant de Dieu, mais votre corps physique, lui, il est toujours un peu sur la terre, quoi. Et c'est comme une femme qui accouche. C'est pas sorti encore. On pousse. J'ai du mal, hein, je suis un homme, j'ai du mal à expliquer ça. Mais on pousse. Mais ça sort pas tout de suite, vous voyez. Et c'est comme si on a des contractions dans notre cœur parce qu'on se dit, oui, papa, je t'aime. Mais en fait, je réalise pas que je suis ton fils, quand même. On sait, il y a plein de mamans qui ont déjà acheté le lit de bébé avant que le bébé arrive, on est d'accord ? Pour certains, vous avez déjà acheté même les chaussettes, vous avez pris la bonne couleur, le rose ou le bleu, enfin bref, tous les clichés, quoi. Mais le bébé, il est là, mais il n'est pas là. Mais c'est pareil. Votre esprit, il est enfant de Dieu, mais votre corps, il ne vous pousse pas à le réaliser. Et puis, il termine l'apôtre Paul en disant, au verset 25, « Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. » Waouh ! L'autre fragilité, c'est mes prières. Je suis juste nul pour prier. On est tous, finalement, assez nuls quand on prie. On est tellement limités. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit « Je parle en langue plus que vous tous ». Et il dit, parce que c'est quand ma prière est bloquée, je loue en langue et c'est ce qui se passe. Et il dit « Mais l'esprit, il sonde et il parle à Dieu là où je suis bloqué, là où je suis limité. » Est-ce que c'est possible de voir la photo de ce petit, je ne sais pas si c'est un petit garçon, une petite fille, aimé par Dieu ? Pourquoi ? Il y a toutes les couleurs sur la terre, black, blanc, ça se trouve Dieu est noir, moi je suis blanc, je ne sais pas quelle est la couleur de Dieu. Je pense que Jésus était ni l'un ni l'autre, il était plutôt arabe hein, comme type. Mais parce qu'il était sémite, Moyen-Orient en général, ils sont ni l'un ni l'autre, ils sont entre les deux. Et je me dis, si quand on ne porte pas la même couleur que le papa, c'est chaud, hein. Je pense aux enfants qui ont un parent de couleur différente quand ils arrivent à l'école, à 4 ans. C'est qui ton papa ? C'est lui. Mais non, n'importe quoi ! Mais si, c'est mon père ! C'est pour ça que l'apôtre Paul dit on a Dieu en nous, mais on n'a pas l'identité corporelle de ce que l'on va être. Et ce décalage nous fait terriblement souffrir. Parce qu'on sait qu'on est une fille de Dieu, un fils de Dieu, mais on n'a pas des réactions à la hauteur de ce qu'on devrait avoir. Enfin, il y a décalage. Et on a du mal à croire que Dieu nous aime quand même. Waouh, mais Dieu, il t'aime tellement, tellement, qu'il est parti et qu'il a dit, de toutes les couleurs, de toutes les nations, je tirerai la louange. C'est ça l'adoption de Dieu, c'est dur d'être adopté. Vous savez ce qui se passe, regardez dans Luc 3, 22, le Saint-Esprit descendit sur Jésus sous forme corporelle comme une colombe. Une voix retentit du ciel et lui dit... Qu'est-ce que le Saint-Esprit va dire, va crier lorsqu'il va descendre sur Jésus ? Il va lui dire « Bon courage, ça va être dur !» Non. Il ne dit pas « Je suis fier de toi, tu vas mourir sur la croix !» Non. Le Saint-Esprit vient et dit à Jésus « C'est trop beau. Tu es mon fils. Bien-aimé. Tu fais toute ma joie. » Oh là 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 ! Vous savez ce que Jésus a besoin pour pouvoir supporter le désert ? Ce qu'il a besoin pour pouvoir supporter les pharisiens et qui vont lui prendre la tête pendant des années ? Qu'est-ce qu'il faut pour supporter la trahison de Pierre ? Qu'est-ce qu'il faut pour supporter la couronne d'épines ? Qu'est-ce qu'il faut pour supporter d'aller jusqu'à la mort et la mort de la croix et l'agonie sur la croix ? Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que tu réalises que tu es son enfant bien-aimé. Tu sais ce que tu as besoin lorsque tu dois aller dans tes séances de chimio ? Tu as besoin que Dieu puisse avoir accès à ton esprit pour te dire t'es mon bien-aimé. T'es ma bien-aimée. Tu vas à Gustave Roussy, mais t'es ma bien-aimée. T'es mon bien-aimé. Tu passes des moments très difficiles, mais tu fais toute ma joie. Quand je te vois, je suis tellement fier de toi. Je suis tellement heureux. Et c'est ça que le Saint-Esprit dit. Il n'est pas en train de te dire, tu ferais mieux de prier plus, tu vas voir, tu serais guéri. Le Saint-Esprit, avant toute chose, Il n'est pas en train de chasser les démons et en train de dire « Ouais, il faudrait que tu luttes plus spirituellement contre les attaques. » Non, c'est ce que dit un petit peu plus loin. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. Le Saint-Esprit me fortifie. Mais il n'y a que moi apparemment. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que le Saint-Esprit fortifie ? Le Saint-Esprit fortifie. Oh, regardez cette image de fruits rouges là. Le Saint-Esprit fortifie. Lorsque mon cœur se laisse simplement envahir, naturellement il y a un fruit qui se développe. J'ai essayé de me dire, mais quels seraient les fruits du Saint-Esprit ? J'ai essayé de mettre tous les parfums, toutes les saveurs, fruits rouges, j'avais que ça, mais c'est faux comme image. Parce que le fruit, c'est qu'un seul fruit. Il est parlé du fruit, le fruit de l'esprit, Galates 5.22, ça s'affiche, Galates 5.22. Mais le fruit de l'esprit, il n'y en a que un en fait, mais c'est tellement riche à l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut pour toi. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la maîtrise de soi, la douceur. Oh, c'est très bon, la fidélité. Tout ce que j'arrive pas à faire, lorsque je laisse mon âme. Mon âme, elle n'a pas envie d'aller vers la joie des fois. Mon âme, elle a envie de pleurer. Et c'est pour ça que le psalmiste dit, des fois j'impose le silence à mon âme. Il y a un moment où il y a tellement de bruit autour de toi que le Saint-Esprit n'a même pas le temps de laisser pousser son fruit. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un fruit pousse, mes amis ? Il faut juste laisser le temps. Il faut juste laisser le temps. Naturellement, le fruit pousse. Et en fait, l'Esprit de Dieu en vous, que vous le vouliez ou non, il a envie de grandir. Quelle maman donnerait un ordre à l'embryon à l'intérieur d'elle en disant « Je te l'ordonne, grandis !» Quel arbre irait voir son fruit en disant « Petite pomme, je te l'ordonne, grandis !» La pomme, elle grandit, point barre. Du moment qu'on lui laisse la place pour grandir, elle grandit. Du moment que l'enfant a de la place dans le ventre de la maman pour grandir, il grandit. De la même façon, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité. L'amabilité, il y a une autre version qui dit le tact. Je trouve ça excellent. Saint-Esprit fait grandir le tact à l'intérieur de toi. Il y a du boulot, hein ? Il y a du boulot. La bonté, la fidélité, la douceur. Puisque l'esprit est la source de notre vie. Ça ne viendra pas. Écoutez bien, regardez ici. Le problème, c'est que certains, ils essayent d'arriver à ça avec leurs propres efforts, avec leur âme, en disant, il faut que je sois joyeuse. Il faut que je retrouve ma paix. C'est décidé, maintenant, je vais être rempli de douceur. Mais quand tes enfants t'exaspèrent, ça repart. Vous voyez, toutes ces choses-là, l'âme peut essayer d'y aller. Mais l'Esprit de Dieu, en fait, c'est quelque chose qui va faire une œuvre contracyclique. Waouh, c'est un peu compliqué ça. Je suis prof d'éco à la base, hein. Et vous savez qu'il y a des mesures qu'on appelle des mesures contracycliques. C'est quoi une mesure contracyclique ? C'est quand tout va dans un sens, cette mesure va dans l'autre sens. Et il y a des moments où votre âme, elle n'arrivera pas à trouver la paix. Des moments où votre âme n'arrivera pas à trouver la joie. Des moments où votre âme n'arrivera plus à rester dans l'esprit de douceur. Et c'est là où l'esprit vient au secours de votre faiblesse. Et d'un point de vue contracyclique, il vous donne une paix que vous ne devriez pas avoir. Que la méthode Coué ne peut pas vous donner. Une paix extraordinaire. Un moment où votre fidélité ne pourrait pas se développer, il vous le donne. Vous savez, regardez ce qui est dit dans Zacharie 4.6. Il me reprit et me dit, voici le message que l'Éternel adresse à l'église de Créteil, pardon, à Zorobabel. Pour toi individuellement ce matin. Cette œuvre, vous l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais par mon esprit. Le Seigneur des armées céleste le déclare. Ce n'est ni ma force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Ce n'est ni par... Ah. Est-ce que la force est utile? Oui. Est-ce que votre âme, pour certains, sont fortes? Il y a ici des personnes, je vous envie trop, parce que vous avez des nerfs d'acier. Vous avez une capacité à rester au top tout le temps. Mais pour nous qui sommes juste normaux, on vit des creux, vous voyez. Et c'est dans ces moments-là où on a besoin de dire, ce n'est ni, bah, tant mieux, j'en ai pas d'ailleurs, par force, ni par ma bravoure, parce que j'en ai plus, mais c'est par ton esprit, Seigneur, que je pourrai m'en sortir. Encore faut-il que tu lui laisses la possibilité de le faire. On va se quitter avec une dernière chose, le Saint-Esprit me défend. Bah, lorsque je lui fais confiance. Vous avez vu, lorsqu'il y a des accusés qui vivent des situations de procès où ils doivent être défendus, on leur donne un avocat. Vous connaissez. Pour certains, c'est des avocats pas forcément terribles. On les appelle les commis d'office. Et l'avocat, il n'a pas choisi, il est obligé d'y aller. Déjà, le Saint-Esprit n'est pas un avocat commis d'office. C'est un avocat que tu as invité le jour de ta conversion. Et cet avocat, il a dit « Ok, je viens ». Eh, vous savez que le cabinet Del Sol à Paris, lorsque l'on fait des recherches par rapport, pour bien pas faire d'erreur par rapport aux finances de l'Église, on le fait pas souvent, hein, je vous rassure, hein, parce que... Mais comme on veut faire les choses de façon très carrée, le cabinet Del Sol, pour une journée, c'est le meilleur cabinet parisien. Il prend 1500 euros. Un cabinet parisien d'avocats, 1500 euros par jour. Bon. Il est plutôt très bon, hein. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Mais le Saint-Esprit est plus bon que bon. Et le Saint-Esprit coûte combien? Oh non, me dites pas ça. Parce que si en plus il coûte rien et que vous ne l'utilisez pas, vous êtes trop... Parce que vous voyez, si je devais m'offrir le cabinet Del Sol à 1500 euros jour pendant 365 jours, ça me coûte le demi-million par an, mes amis. Le demi-million! Alors soit vous êtes infiniment fort et riche, soit vous avez un avocat qui coûte une fortune, l'esprit de vérité, le consolateur, celui dont Jésus dit, mais il a, vous avez dans votre intérêt que je m'en aille pour que lui descende, parce qu'il vous aidera, il vous enseignera dans les moments les plus difficiles. Regardez ce que dit Jésus. Jésus dit, lorsque vous ne saurez pas que dire, Luc 12, 11, quand vous traînera dans les synagogues, les dirigeants, les autorités, ne vous inquiétez pas au sujet de ce que vous aurez à dire pour votre défense, ni de la manière dont vous la présenterez, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'instant même ce que vous devez dire. Oh non. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on le vit si mal alors? Pourquoi on a l'impression qu'on s'en sort pas? Alors, je vais vous dire ce qui se passe. Notre avocat, ce n'est pas un avocat de commis d'office, c'est le Saint-Esprit. Sauf que pour certains, on lui parle tellement pas et on l'écoute tellement pas qu'on ne sait même plus qu'il existe. Et le jour du procès, le jour de la difficulté, le Saint-Esprit vient quand même par grâce rentrer dans le prétoire ou rentrer dans le tribunal, la salle d'audience, et puis on lui dit « Oh, t'es qui toi, oh ?»« Non, je vais parler tout seul, toi Saint-Esprit, va dehors là. Je vais laisser mon âme parler, je vais laisser mes émotions parler. » Tu m'étonnes après que la plaidoirie, elle n'est pas terrible. Saint-Esprit, ne vous inquiétez pas. Arrêtez de tout maîtriser, arrêtez de tout contrôler. Le Saint-Esprit vous dira ce que vous devrez dire. Est-ce que ça marche? Parce que si tu n'y crois pas, si tu n'as pas confiance dans l'avocat, je comprends que tu le vis. Hein. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que j'ai dit le troisième point, lui faire confiance. Le Saint-Esprit, mon avocat, mais à condition que je lui fasse confiance. Parce que la vérité, c'est que quand la situation est gérable, on accepte de prier. C'est bizarre. En fait, on accepte de faire confiance au Saint-Esprit quand on sait qu'on pourra s'en sortir presque tout seul. Mais le jour où c'est vraiment foutu, alors là, on reprend tout en main, vous voyez? Et ça doit être mais tellement frustrant pour le Saint-Esprit. Et il nous voit nous noyer tout seul, en criant, en hurlant et en essayant de nous défendre alors qu'il voudrait tellement. On va se quitter sur ce dernier texte. C'est dans Actes 16. Il y a deux garçons extraordinaires, Paul et Silas. La foule se leva contre eux, souleva contre eux. Les magistrats les firent arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte à coups de bâton, on les roua de coups, on les jeta en prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près. Et le Saint-Esprit, tu fais quoi? Il y a Paul et Silas, ils sont en train de se faire tabasser. Le Saint-Esprit ne va pas vous empêcher de souffrir. Le Saint-Esprit, il n'a pas dit, Jésus n'a pas dit, grâce au Saint-Esprit, vous ne passerez jamais en jugement devant les tribunaux. Grâce au Saint-Esprit, vous ne serez jamais malmené par les hommes. Non, il a dit, le Saint-Esprit est justement là pour vous aider quand ça n'ira pas. Ça ne va pas. L'apôtre Paul, il a des plaies sur son dos, il a peut-être des fractures, il s'est fait tabasser, on l'a roué de coups. Et pour rajouter un petit peu, pour se conformer à la consigne, donc le gardien les enferma dans le cachot le plus reculé. Vous savez, le cachot le plus reculé, ça veut dire là où il n'y a pas de lumière, ça veut dire qu'il n'y a pas d'aération. Vous imaginez déjà l'odeur d'une prison quand il fait 45 degrés dans un cachot en Macédoine, au nord de la Grèce, ça devait être une horreur. Hein. Mais en plus de ça, c'est l'endroit où, comme c'est le plus reculé, aucun surveillant n'a envie d'aller ramasser les immondices. Donc c'est certainement là où il y a le plus de déjections d'excréments. Et là, pour terminer, histoire qui reste bloquée, en plus physiquement, on met des entraves, on leur attache à les pieds dans des blocs de bois. Donc t'es cassé, t'es brisé, tu peux même pas te frotter. Ils sont juste en train de... Naturellement, là, votre corps, il va pas bien du tout. Et votre âme, elle a envie de mourir. Je pense que dans ces circonstances-là, une personne, elle est tentée même par le suicide. Quand vous êtes tabassé, quand vous vivez sur un tas d'excréments, que vos pieds sont bloqués, vous êtes enfermé, qu'il n'y a même pas de lumière, il n'y a même pas d'air. Mais comment réagit l'apôtre Paul et Silas lorsqu'ils sont remplis de l'esprit? Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Contracyclique. Le fruit de l'esprit, c'est la paix, la joie, la patience, la bonté. Le pasteur Francis Chan, qui a écrit un livre extraordinaire, Le Saint-Esprit, le Dieu oublié, disait qu'il mangeait en tête à tête avec un des 23 missionnaires sud-coréens qui ont survécu après avoir été torturés et emprisonnés par les talibans en 2007. C'est passé à la télé, je ne sais pas si vous en rappelez. Ça fait 7 ans maintenant, mais je me rappelle parce que j'avais prié pour deux. Il y avait 25 missionnaires, il y a deux qui ont été décapités et il y en a 23 qui ont pu finalement être échangés et revenir. Et le pasteur Francis Chan disait, il est allé manger avec un des responsables de ce groupe de survivants. Et ce pasteur a été vraiment marqué par ce que ce missionnaire sauvé, extrême limite, lui disait. Il dit, tu sais, dans ma vie, je n'ai jamais vécu une telle paix et une telle présence de Dieu que quand j'étais dans le cachot des talibans. Il dit, c'était incroyable. On se retrouvait les 23 et on n'avait plus qu'un seul but. Je ne sais pas si je peux vous le dire parce que c'est tellement choquant. Ce n'est pas des allumés pourtant. On n'avait plus qu'un seul but. C'était qui aurait l'honneur de mourir en premier pour Jésus. Et il dit, aujourd'hui, on a retrouvé tout le confort, parce que la Corée du Sud, c'est le même niveau de vie que la France, à peu près. On a retrouvé tout le confort de nos églises, on est bien. Et il dit, mais je pense quand même que le moment où je n'ai jamais vécu une aussi forte présence de l'Esprit de Dieu, c'était dans le cachot des talibans. Je crois que quand on a vraiment besoin, c'est là que tu vas expérimenter des fois la plus grande présence de l'Esprit de Dieu. Pour certains, vous ne vivez pas grand-chose, mais c'est parce que vous n'avez pas beaucoup d'épreuves non plus. Soyons un petit peu honnêtes. On voudrait ressentir le Saint-Esprit, mais je vais le ressentir. Oui, mais bon, là, tu as juste à lire ta Bible et à réaliser qu'il est là, quoi. Mais dans ce cachot des talibans, ces missionnaires sud-coréens, tout d'un coup, un vent violent pardon, un violent tremblement de terre, excusez-moi, secoua la prison jusqu'à ses fondations. Il est dit à propos de Acte 16 que toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même, tous les prisonniers se détachèrent. Et puis les responsables vinrent en personne leur présenter les excuses, leur rendirent la, c'est trop bon ça, leur rendirent la liberté, leur demandèrent de bien vouloir quitter la ville. À la sortie de prison, Paul et Silas se rendirent chez Lydie, où ils retrouvèrent tous les frères et ils les encouragèrent. Bah, il manquait plus que ça. C'est eux qui encouragent les autres. Puis ils reprirent la route. Les consolations de l'Esprit. Le Saint-Esprit est mon soutien. Le Saint-Esprit me fortifie. Le Saint-Esprit est mon avocat, mon défenseur. On va fermer les yeux. Seigneur, je veux réaliser ces choses. Fils et filles adoptifs de Dieu. Aimés par Dieu. Seigneur, que cette révélation descende jusque le plus profond de mon être. Seigneur, je confesse que bien souvent, je voudrais gagner ton approbation. Je voudrais faire. Et j'oublie que tout est accompli. Et j'oublie que tu m'as aimé alors que je n'étais pas aimable. Et j'oublie que tu m'as choisi alors que je ne t'avais même pas encore choisi. Et j'oublie que tu es celui qui dit de moi, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, comme tu disais de Jésus, mon grand frère. Y a-t-il une fille, une femme, un homme, un jeune homme dans cette salle qui veut arrêter de se débattre et juste se laisser adopter par Dieu? Et juste se laisser soutenir par Dieu. Et juste laisser le Saint-Esprit contrecarrer ce que ton âme essaye de faire. Alléluia. Oh mon Dieu. Tu le ressentes ou que tu le ressentes pas, Dieu est là.
La terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit, au son de sa voix, au son de sa voix, combien, combien Dieu est. Tous verront combien, combien commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin.
Qu'on peut dire pour terminer ce temps?